BFM Business, objectif, raison d'être, Cyrielle Ariel.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons nous intéresser aux enjeux pour une hospitalité plus responsable. On reçoit alors le directeur général du groupe Rolik qui se fera challenger par la fondatrice de la start-up Ethic & Trips. Il y aura également le débrief du journaliste BFM Emmanuel Le Chypre et les questions des internautes par ma consoeur. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.
Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir en plateau Olivier Rolik. Bonjour et bienvenue. Olivier, vous êtes le directeur général du groupe du même nom, du groupe éponyme. C'est le groupe familial, ça fait 3 générations et vous en êtes à la tête. Groupe Rolik, pour le rappel, c'est tout de même assez connu, c'est les termes de Saint-Malo. C'est 7 hôtels et 3 résidences de tourisme et notamment 3 centres urbains. À quoi Tonic, en face de vous, nous avons notre challengeuse. Votre challengeuse de la semaine, c'est Anne Chenet. Vous êtes la CEO et fondatrice d'Ethic & Trips. Alors, vous regroupez plus de 200 hébergements partenaires, notamment en France. Vous allez vouloir vous développer en Europe et peut-être dans le monde. Votre mission, c'est de réduire l'impact écologique des nuitées hors du domicile. Et bien, ça tombe bien, on a plein de questions à vous poser, et notamment à vous, Olivier Rolik. À commencer par, quelle est la raison d'être de votre groupe aujourd'hui ?
Alors, la raison d'être de notre groupe, c'est apporter du bien-être et les bienfaits de la mer à nos clients. Alors, c'est du mieux vivre, de la santé, de la forme, du lâcher prise aussi, du bien manger. Et puis, je dirais plus généralement, c'est entreprendre de façon éco-responsable, en tout cas de façon responsable dans tous nos actes, avec une vision du long terme. Vis-à-vis de nos équipes et de l'environnement.
Bah, ça tombe bien, on va décortiquer tout ça. Anne Chenet, alors vous, Ethic & Trips, expliquez-nous votre plateforme. Ça a à peu près un peu moins de 2 ans. Comment c'est venu? Avec vous, on parle de slow tourisme, d'écotourisme, de tourisme vert. C'est les nouvelles tendances?
Oui, c'est une grosse tendance. C'était déjà un peu avant le Covid, mais là, après le Covid, ça a vraiment complètement changé. Moi, l'idée m'est venue parce que c'est ma grande passion, les vacances, les voyages. Et en plus, je voyageais beaucoup dans le cadre de mon expérience professionnelle précédente. Et j'essayais d'être plus éco-responsable. Et quand j'étais à l'hôtel, j'étais complètement à l'inverse de ce que je faisais chez moi. Donc ça me posait problème. Donc j'ai pas trouvé de solution. Donc j'ai imaginé Ethic & Trips avec l'idée de réduire l'impact des nuiteurs du domicile et de remettre de l'humain dans le tourisme, de remettre tout ce que peut avoir de positif le tourisme dans le tourisme, la découverte des autres, la découverte d'un autre pays de manière slow, on va dire.
Alors, de manière slow, le voyager autrement, voilà, c'est tout ce qu'on apprend, c'est tout ce qu'on peut lire sur tous les sites. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, on va dire pour un Français, voyager de manière éco-responsable, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait plus aussi ?
Qu'est-ce qu'on ne fait plus déjà ? C'est peut-être plus arrêter de courir après la liste des choses Instagrammables pour traverser le pays sans s'arrêter. Voilà, c'est vraiment plus prendre son temps. Moi, je préconise vraiment d'aller à la rencontre des gens, enfin, parce que je trouve que c'est ça moi qui m'enrichit, c'est de parler avec les gens. Et donc quand on voyage, c'est aussi ça, prendre le temps d'aller voir les autres, découvrir des lieux qui sont peut-être moins touristiques, qui amènent moins de monde, mais du coup qui sont d'une très grande richesse. Et du coup, c'est, on les découvre avec des yeux qu'on n'a jamais vus finalement. Donc c'est, voilà, profiter du temps.
Qu'est-ce qu'on a envie de poser comme question à un acteur de l'hospitalité depuis 3 générations qui est quand même spécialisé dans la thalassothérapie?
Déjà, bravo, parce que 3 générations, c'est quand même déjà une belle entreprise. Et puis, effectivement, on voit sur au travers de votre site internet que vous avez mis en place beaucoup de choses au sein de votre établissement. Mais moi, ce que je me demande, c'est en fait ce qu'on a remarqué, nous, chez Ethic & Trips, c'est qu'il y avait un vrai changement des voyageurs dans le fait de réserver leurs vacances en direct auprès du professionnel et plus du tout par des centrales de réservation, en tout cas quand ils sont éco-responsables. On le voit dans leur manière de faire. Ils nous disent qu'ils cherchent sur les centrales de réservation et après, ils vont sur le site de l'hôtel. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez identifié? C'est quelque chose que vous prenez en compte dans le choix de vos partenariats pour mettre en avant vos établissements?
Alors oui, triple oui. on a la chance d'avoir des équipes fidèles, mais aussi des clients fidèles qui nous connaissent pour certains depuis longtemps, qui viennent régulièrement parce que un séjour thalasso régulier, c'est aussi une hygiène de vie, une façon de faire aussi un peu de slow tourisme. Hein. On ralentit, on prend du repos quand on vient en thalasso, et on a la chance chance d'avoir beaucoup de gens qui nous connaissent tellement bien qu'ils choisissent leur chambre, qu'ils décortiquent leur séjour et qu'ils préparent ça très bien. Et ils sont mieux servis quand ils nous appellent en direct, évidemment, plutôt que de passer par des intermédiaires qui parfois connaissent pas forcément très bien les sites qu'ils vendent.
Ouais. Quand on vous entend, on entend le mot habitude. Ça se transmet de génération. Vous dites, voilà, les mères arrivent, il y a les filles qui arrivent, leurs filles, etc. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Alors, effectivement, on parle du 6e rapport du GIEC, on parle d'écotourisme, on parle de stress hydrique, on parle de sobriété énergétique. Est-ce que, voilà, parmi vos 10 établissements, il y a des nouvelles activités qui apparaissent? Alors là, on parlait de rencontres locales, mais est-ce qu'il y a des choses quand même où vous dites, voilà, on va changer, on n'est plus en circuit court, mais je pense que vous l'y étiez déjà, mais est-ce qu'il y a des choses, voilà, réduction du plastique, meilleure gestion de l'eau? Qu'est-ce qui change?
Vous avez dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui changent, en fait. C'est une. Et il faut sans doute que tout change un peu. Il ne faut pas changer seulement quelque chose. Donc tout change. C'est les mobilités. On a de plus en plus de gens qui viennent en train. Je pense qu'on est de plus en plus sensible au coût du CO2 du transport. On a l'énergie qui change. On fait des économies. On évite de climatiser trop fort, de chauffer plus qu'il ne faut. La consommation d'eau. Effectivement, le stress hydrique, et on subit tous.
Qu'est-ce que vous faites pour la gestion de l'eau, par exemple?
Alors, si on plonge un peu dans ce sujet-là, réduction des réducteurs de pression, des mousseurs, donc ça marche plutôt bien. En Thalasso, on a la chance, on utilise de l'eau de mer. Et donc, les gens baignent dans l'eau de mer toute la journée. Donc, ils ont peut-être un peu moins besoin d'eau douce. Donc, grosso modo, on a une consommation plutôt inférieure à la moyenne, mais avec des petites choses. On se rend compte qu'en l'espace de 3-4 ans, on a fait des vrais progrès sur des consommations énergétiques ou eau.
Anne Chenet, vous qui avez répertorié, vous travaillez, collaboré avec plus de 200 hébergements partenaires en France, qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question sur leurs critères? Est-ce que voilà, le groupe Rolik et ses 10 établissements pourraient rentrer dans votre charte?
Ça, effectivement, il faudrait qu'on regarde dans le détail, mais j'en doute pas. Mais c'est vrai que j'ai noté qu'il y avait notamment sur la consommation d'eau, parce que vous avez un rapport éco-responsable vraiment hyper détaillé. Donc j'ai vu qu'entre chaque établissement, il y avait beaucoup de décalage entre la consommation d'eau par séjour. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que vous avez prévu des actions, par exemple, pour ceux qui consomment le plus? J'ai vu qu'il y en avait un qui consommait, enfin, qui indique que ça allait de 52 à 200 litres par séjour. Mmh. Et de même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vivez autour de l'océan, vos clients baignent dans l'eau de mer. Est-ce que vous mettez des choses en place pour protéger les océans, pour la biodiversité? Enfin voilà, parce que du coup c'est quand même votre centre, le centre de.
Alors si sur la première partie de votre question sur la consommation d'eau douce, vous disiez tout de suite que il n'y a pas de raison qu'en faisant du tourisme on fasse moins bien qu'à la maison. On consomme 129 litres par nuitée en moyenne, ce qui est un peu moins que la moyenne nationale puisqu'on est à 148 litres par Français en France. Donc on peut toujours faire mieux. On a fait beaucoup de choses, il en reste sans doute, mais après l'équilibre entre les établissements, ça dépend un peu des configurations de chambres et de ce qu'on peut y trouver comme service. Pour revenir sur l'eau de mer, évidemment c'est un souci depuis des décennies et encore plus maintenant. L'eau de mer, c'est notre ressource première, c'est l'environnement naturel dans lequel on baigne. Donc je dirais qu'il y a une sensibilité très forte là sur ce thème-là.
Qu'est-ce que vous faites alors justement pour la protection des océans, de la biodiversité marine?
Typiquement, je peux citer un exemple. On a supprimé les huiles essentielles dans les soins, puisqu'on mettait quelques gouttes d'huiles essentielles dans les bains ou dans certains soins. Ça, on a rayé de la carte parce que c'est des composés qui ont une durée de vie longue. Donc on a supprimé ça. Alors c'est pas des grands gestes parce que c'était pas non plus des consommations très importantes, mais ça plus ça, on est assez convaincu que. Et puis, dès qu'on entend parler d'une action locale assez classique de nettoyage des plages ou de cendriers pour éviter de trouver des mégots partout ou de sensibilisation de nos clients quand ils arrivent, on n'hésite pas parce que c'est l'environnement dans lequel on travaille et c'est la richesse de ce qu'on propose aux gens. Et je pense que la beauté aussi du site à Saint-Malo fait que elle s'impose un peu à tout le monde. Ça donne envie de respecter les choses quand on a affaire à du beau.
Un autre des enjeux, notamment en restauration, enfin ça concerne beaucoup, mais notamment également la restauration, c'est le gaspillage alimentaire. On en parle beaucoup. L'année dernière, on avait reçu sur ce plateau le groupe Accor qui s'engageait de réduire de 50% en tout cas de le gaspillage alimentaire. Vous, comment vous faites pour valoriser les surplus, pour éviter de gaspiller?
Alors d'abord, on essaye de commander juste et de portionner juste.
Comment on fait alors?
Pour commander juste, on anticipe les commandes en fonction de l'activité à venir. On peut avoir des commandes linéaires sans regarder trop ce qui arrive comme activité. Nous, on est très précis sur ce point. On estime que notre taux de déchets, on dit 30% à l'échelle de la France.
Oui.
Nous, on estime être en dessous de 10%. Donc là aussi, il y a encore du chemin à faire, mais je dirais que...
Et comment on fait pour quantifier, effectivement, quand on a autant de clients
et... Avec les tonnages de déchets que vous triez, vous avez une vue à peu près précise quand même du poids de déchets organiques par rapport au poids de ce que vous commandez. C'est assez basique, hein, mais ça marche plutôt bien. Et la taille de l'établissement fait aussi sans doute que, grâce à la masse, on est efficace. Quand on a un petit établissement, c'est plus compliqué. S'il est plein, s'il n'est pas plein, si j'ai du monde, c'est plus compliqué. Nous, on a une inertie qui fait qu'on est assez efficace sur ce thème-là.
Justement, parce qu'en fait, récemment, j'ai pu animer un atelier à la Fabrique du Tourisme qui était repenser la démarche commerciale autour du RSE. Et il y a un sujet qui est revenu des hôteliers partenaires qui venait conforter ce qu'on avait mis en place sur les Tick & Trips, qui disait en fait, déjà pour limiter les déchets alimentaires, il faudrait supprimer les buffets de petit déjeuner parce qu'il y a vraiment pléthore d'alimentation. Mmh. Et eux, ils me disaient que justement, le fait de reprendre le contact direct avec leurs clients, la réservation directe, ça leur permettrait de pouvoir communiquer avec les clients avant l'arrivée sur place pour justement éviter cette déception. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas centrale de réservation, on incite vraiment les gens à se mettre en relation directement. Je voulais savoir si vous, c'était un sujet que vous avez déjà évoqué, le buffet du petit déjeuner.
Alors, sur le buffet du petit déjeuner, on peut faire plein de choses. Alors, il y a d'abord toute la viennoiserie, par exemple, où on peut réutiliser. Alors, c'est le croissant qui finit en croissant aux amandes, qu'on recycle d'une certaine manière. C'est aussi la viennoiserie qu'on offre à nos équipes. Hein, ce qui n'a pas été utilisé la veille, finalement ça sert à tout le monde. C'est aussi beaucoup tout ce qui est portions à supprimer, les petites portions de confiture, etc.
Surtout de Nutella.
Là en emballage c'est une catastrophe. Il faut évidemment passer sur des grands formats. Et puis c'est sans doute aussi choisir des produits locaux parce qu'on peut faire plein de choses. On peut proposer tout ce que la terre entière propose. Si on propose du local, déjà
vous faites des partenariats justement avec des AMAP locales, des producteurs locaux?
Alors on fait mieux que ça, on a notre propre production de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et donc on produit quasiment la totalité nous-mêmes.
Et pour les légumes? Non mais les légumes...
Les légumes, on a en Bretagne une terre d'exception sur le point de vue maraîcher et évidemment dans les champs d'à côté on trouve à peu près tout ce qu'on veut et ça c'est une grande force que d'avoir cette capacité à sourcer local.
Et vous avez jamais du coup envisagé de supprimer le buffet du petit déjeuner en laissant la possibilité aux gens, en laissant la possibilité, parce que moi j'ai déjà été dans des établissements comme ça et en fait c'est super, on a un super choix et on le sait à l'avance, on commande la veille et donc du coup on a vraiment que ce qu'on veut consommer.
Le buffet du petit déjeuner chez nous c'est quelque chose de trop ancré dans les habitudes pour imaginer aujourd'hui revenir sur quelque chose comme ça. Puis j'avoue que d'un point de vue efficacité de manière générale, ça permet quand même de laisser le client faire le job, mine de rien. Et on sait qu'un petit déjeuner en chambre, c'est plus compliqué à organiser. C'est de la vaisselle, c'est derrière de l'eau à utiliser pour laver tout ça.
Donc la suppression du petit déjeuner dans les hôtels de luxe, ce n'est pas apparemment pour tout de suite. Et dernière question pour clôturer cette première partie, c'est en termes de formation. Qu'est-ce que vous faites avec vos équipes pour les sensibiliser aux éco-gestes?
Alors, d'abord, on s'appuie sur, je dirais, la tendance actuelle. Je pense qu'on sent, au-delà de la formation, les gens s'auto-forment. Je crois qu'il y a aujourd'hui une conscience qui fait que les gens ont en tête les enjeux, le changement du climat. C'est des choses qui transpirent dans les équipes. Donc, c'est beaucoup plus facile d'engager les équipes sur cette thématique d'éco-responsabilité. Après, quand on descend au niveau des métiers, on met en place des ateliers sur la base du rapport que vous citez. listé, on avait listé à peu près 450 actions à mettre en œuvre.
Du climat, ça vous parle ?
C'est des choses. Alors oui, tout à fait. Ça, par exemple, pour moi, ça fait partie un peu des généralités qu'on arrive à retrouver chez les gens naturellement. C'est-à-dire les gens sont conscients de ces choses-là.
Mais est-ce que vous allez investir pour former vos équipes ?
Après, comment ? Oui, bien sûr. Alors, on a déjà investi et là, on est en train de déployer un plan de formation qui est plus un plan d'action qu'un plan de formation, parce que ou en tout cas un plan d'information et un plan d'action. La question, c'est comment tous les jours vous arrivez à organiser chaque jour.
Eh bien, écoutez, on va creuser ça plus en détail. Maintenant, on va donner la parole à notre débriefeur de la semaine.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir mon confrère éditorialiste Emmanuel Le Chypre en plateau pour son débrief. Alors Emmanuel, bonjour, qu'en avez-vous pensé ?
Alors moi je suis très emballé par ces démarches. En fait, je pour ne rien vous cacher, la question que je me posais en vous écoutant, c'est d'abord j'aimerais bien que vous m'expliquiez, une fois qu'on a mélangé tous les changements que vous êtes en train de faire et toute la philosophie que vous avez développée, au final, moi, client, touriste, qu'est-ce que ça veut dire en termes de prix à la fin ? C'est-à-dire qu'est-ce que, au contraire, on fait des économies ? Ou est-ce que c'est un coût que je dois assumer? Et puis quand je vous entendais tous les deux, alors moi l'idée de supprimer le buffet du petit-déj, là, je me dis en gros quand on est malade ou quand on va chez vous, que quand on est malade ou que quand on est hyper militant écolo, quoi. Et je me disais, quelle est la place du client lambda, en fait, qui viendrait chez vous comme ça juste par plaisir? Moi, c'est ça qui m'a un peu manqué. Je me dis, il est où le plaisir, soit dans la thalasso, où je n'ai sans doute qu'une idée très fausse de ce qu'est la thalasso, où je m'imagine avec mes deux carottes vapeur à la fin, et puis vous qui me supprimez le buffet du petit déjeuner. Là, je dis non. Non, je dis non. Alors, comment vous me séduisez, moi, client qui n'ai pas de problème de santé, qui ne suis pas spécialement militant écolo? Et deux, sur la facture, concrètement, comment ça se passe?
Alors, sur le plaisir, nous, chez nous, 70% des gens viennent uniquement pour du plaisir.
Donc, ils viennent d'eux-mêmes?
Donc ils viennent pas tous malades.
Je veux dire, ils viennent pas en cure, quoi, c'est ça que je veux dire.
Si, ils viennent en cure, mais on a 30% des gens qui viennent pour de la santé, et dans les 30%, c'est maintien du capital santé en partie.
D'accord.
Donc ça, c'est pas forcément des gens malades, c'est des D'accord. gens qui ont un souci de se tenir en forme pour demain. Et on a deux tiers des gens qui viennent pour se faire plaisir, avec une petite idée que ça fait pas du mal, mais donc effectivement, non, tous les gens sont pas malades chez nous.
Et rassurez-le, il y a pas que des carottes vapeur.
Et non, il n'y a pas que des carottes vapeur. Là, je crois que on a souvent une dissonance entre l'envie et le besoin, hein, mais de temps en temps, on a des envies. Et,
vous arrivez à réconcilier les deux.
Et oui, parce que même quand on fait ce qui est bien, il faut qu'il y ait du plaisir, autrement ça ne dure pas. Et quand on rentre à la maison, si on a pu avoir une expérience positive de se faire du bien en se faisant plaisir, eh ben, on est meilleur chez soi. Donc, je pense qu'il faudra que vous veniez chez nous pour découvrir tout ça.
J'ai beaucoup à découvrir.
Et pour enchaîner ?
Alors, moi, supprimer le petit déjeuner ne veut pas dire un petit déjeuner pas plaisir. L'idée, c'est que, enfin, moi, quand je l'ai vécu, et ceux, les hôtels qui le font, c'est vraiment qu'on a une liste de choses possibles à prendre, longues comme le bras. Il faut juste les sélectionner la veille pour que l'hôtel ne prépare que ce qu'on a besoin.
Mais moi, la veille, je sais pas ce que je veux, l'homme.
Alors, ça, effectivement.
Ça vient compliqué.
Quand on rentre dans une démarche un peu responsable, il faut quand même, des fois, un peu faire preuve de sobriété.
Mais alors, c'est quoi les autres sacrifices que vous me demandez,
par exemple? Ce que je veux dire, c'est que pas mal ce qu'on voyage éco-responsable, que c'est plus cher, forcément. Il y en a pour tous les budgets. Et ça, c'est vraiment ce à quoi on s'applique sur Ethic & Trip, c'est d'avoir des établissements de toutes les gammes de prix, toutes les envies. Et aussi parce qu'on n'a pas toujours envie de la même chose. On peut partir en vacances en famille, on peut avoir envie d'un week-end luxe avec son conjoint. Enfin, donc, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, tous les prix. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'applique à faire.
Alors, j'avais une autre question. C'est, en fait, quand je passe pas la nuit chez moi, quand je la passe ailleurs, il y a tout un tas de choses que je ne consomme pas chez moi. Et je me disais, la différence en fait de consommation d'énergie, par exemple, est-ce que c'est pas surtout le transport ? Et qu'est-ce que, parce que j'ai bien compris ce qu'il y a autour de l'expérience dans l'établissement, est-ce que vous travaillez aussi sur ce qui est quand même responsable d'une partie du mauvais bilan carbone du tourisme et du voyage, qui est le transport ?
Alors nous, on travaille pas directement dessus. Par contre, on a un blog avec plus de 120 articles où on donne beaucoup de conseils là-dessus. Et on a quand même, on a développé depuis 4 mois une offre à destination des entreprises où on les accompagne dans la recherche de lieux éco-responsables pour leurs séminaires et réunions internes. Et on a fait faire une étude par un cabinet extérieur, indépendant, qui a montré que hors transport, un séminaire dans un établissement éco-responsable, c'est 2,4 fois moins de CO2 que dans un établissement classique.
D'accord.
Donc malgré ça, parce qu'il y a beaucoup de démarches qui sont faites par les hôteliers sur la consommation énergétique, notamment, qui pèsent quand même sur le bilan carbone d'un séminaire hors transport. Donc c'est pareil pour les nuitées, pour le loisir.
Et la thalasso plus responsable, ça me coûte plus cher ou pas ?
Alors non, ça coûte pas forcément plus cher parce que pour faire mieux sur certains sujets, ça va coûter plus cher. Mais en même temps, si on fait moins sur d'autres sujets, la sobriété peut aboutir à une forme d'équilibre. Donc non, ça coûte pas plus cher. Et puis, si vous partez moins loin, vous parliez de transport, c'est sûr que si vous faites pas des milliers de kilomètres en avion, mais quelques centaines de kilomètres en train, ça va pas vous coûter plus cher. Et pourtant, vous allez économiser énormément de CO2. Donc, il y a des chemins économiques à trouver dans cette question-là.
Qu'est-ce qui vous réclame le plus, vos clients, aujourd'hui ? Prenons le problème à l'envers, c'est quoi la principale source de réclamation ?
Ah, la principale source de réclamation, c'est assez divers et varié. Je pense que c'est la qualité du contact humain qui est vraiment quelque chose qui est au cœur d'un voyage touristique. On parle de découverte d'un lieu, dans un lieu sympathique, mais aussi de contact humain. On a besoin de ces contacts humains. Et donc, il y a beaucoup de satisfaction. C'est plutôt ce qu'on essaye de mettre en lumière. Et de temps en temps, il peut y avoir une anicroche. Et c'est vrai que ça marque.
Parce qu'en gros, il y a 30 ans, la principale motif de mécontentement, c'était la literie. Il y a 5 ans, c'était le wifi.
Oui, alors ça, aujourd'hui, un wifi,
aujourd'hui,
ça marche
très
pas.
Rapidement.
Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est en train de changer ?
On commence à voir poindre ce sujet d'éco-responsabilité qu'on ne voyait pas il y a 3-4 ans. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Ouais. Voilà.
Si le client drive la chose, ça
on arrive même dans les hôtels de luxe maintenant.
Où il n'y a pas le wifi. Est-ce qu'il y a la télé dans vos
hôtels ?
Mais
nous, on a 200 établissements, donc on a des établissements avec la télé, le Wi-Fi, il y en a pour tout.
Ah non, il y a des établissements sans télé, maintenant.
Ah oui, il y en a aussi.
Oui, sobriété. Il est temps de passer maintenant aux questions des internautes.
BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
Et comme chaque semaine, j'accueille ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes, cette semaine à destination d'Olivier Rolik.
Et on commence avec Nicolas. Comment développer la réutilisation et les multiples vies de l'eau pour préserver la ressource, à commencer par les chasses d'eau ?
Alors, les chasses d'eau, c'est assez simple. Hein, c'est la double bouton qui vous permet d'économiser une bonne partie de la grosse chasse d'eau qui consommait 20 litres. Aujourd'hui, on consomme beaucoup moins avec ça. Après, la chasse d'eau reste indispensable. Et puis, l'étape d'après, c'est le réseau parallèle où vous réutilisez l'eau de pluie pour autant que les réseaux soient dimensionnés et fonctionnent avec le système.
Vous n'avez pas forcément d'eau de pluie à Saint-Malo ?
Moins qu'ailleurs.
Le problème de Saint-Malo, c'est pas vraiment la sécheresse. Hein.
C'est ça. Donc du coup, ça marche.
On poursuit avec Laurent. Faut-il justement profiter de ces solutions de désalinisation pour alimenter les villes côtières en eau ?
Alors, malheureusement, du point de vue énergétique, c'est quand même pas la meilleure des solutions. Quand on peut s'en passer et plutôt faire de la sobriété sur la ressource existante, ça me paraît être une approche préférable en première lecture. Après, il y a des endroits où c'est pas possible. Mais la désalinisation, c'est pas le remède miracle, sans doute, du point de vue énergétique et puis du point de vue de la saumure que ça peut générer. Donc non, et puis si on parle de Saint-Malo plus précisément, on n'en est pas rendu du tout à ces extrêmes et l'eau douce est disponible suffisamment pour la boire en tout cas.
On poursuit avec Leïna. Quel est l'avenir de toutes les activités de Thalasso à l'heure où l'on parle de stress hydrique ?
Ah ben, aucun problème. La thalasso, c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est l'utilisation de l'eau de mer. Donc, elle est disponible en milliards de mètres cubes dans la baie et elle est rendue à la baie une fois qu'elle est utilisée. Donc, du point de vue du stress hydrique, la thalasso, elle génère plutôt des économies d'eau puisque les gens qui baignent dans l'eau de mer toute la journée consomment moins d'eau douce pour se laver dans les établissements de thalassothérapie.
Et comment on la rend dans l'eau de mer, justement, cette eau utilisée ?
Eh ben, on la renvoie comme elle est venue, après l'avoir
refroidie. Sans huiles essentielles, du coup ?
Sans huiles essentielles. Donc, elle est quasi identique, pour pas dire identique, à ce que l'on pompe.
Toujours une question de Leïna. Parmi vos 10 structures, quel taux de personnes en situation de handicap embauchez-vous ?
Alors aujourd'hui, on embauche à peu près 15 handicapés sur, on va dire, 850 salariés. Donc ça reste une minorité. Mais c'est des sujets sur lesquels on travaille. Par exemple, je peux vous citer un exemple. On a une kinésithérapeute en thalassothérapie qui est aveugle avec son chien, ce qui n'était pas une évidence de faire rentrer un chien dans des espaces humides. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle est chez nous et ça se passe très bien et les clients l'apprécient beaucoup parce qu'elle a un toucher tout à fait particulier.
Et dernière question, est-ce que vos structures sont accessibles à tous ?
Alors oui, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. D'abord sur la notion du budget, c'est-à-dire qu'on est un hôtel 5 étoiles avec les Thermes Marins de Saint-Malo, le grand hôtel des Thermes, un centre de thalasso et pourtant on peut accueillir des gens en appartement à budget serré. Et puis on essaye d'accueillir aussi les Malouins et dans un club forme. Donc tout ça à 40 euros, vous avez le droit de goûter à la thalasso.
Je pensais que tout c'était en termes de handicap.
Oui.
Ah, accessibilité à...
Ah, alors là, on est ERP, donc on est évidemment accessible. Ça, c'est la réglementation.
Merci infiniment. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous mes invités, Rebecca Blanc-Lelouch, Emmanuel Lechypre, Anne Chénet et Olivier Rolic pour cette émission de thalassothérapie, plus éco-responsable en tout cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.